chapitre sur la théologie. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est la peinture. Une des dernières notes qui maintenant date un peu quand même. C'est ce qu'on appelle l'analyse structurale. L'analyse structurale, ce n'est pas à proprement parler. Qu'est-ce qui se passe, Marc?
C'était quoi la dernière fois? C'était pas Darwin, non?
La dernière fois, c'était pas
Darwin qu'on avait vu?
Non, c'était Kuhlmann. On avait vu la théologie de. Hein, on avait vu, c'était bien ça, hein, on avait vu Kuhlmann, la théologie de l'histoire du salut, tout ça.
Kuhlmann, c'était avant.
Terminé par. Je ne sais pas si c'est bien. Primauté de Pierre, tradition.
La primauté de Pierre, c'est la question de la tradition, tout ça. Oui. C'est ça, oui. Donc aujourd'hui, c'est l'analyse structurale. L'analyse structurale n'est pas à proprement parler une théologie. L'analyse structurale, c'est une analyse des textes, quels qu'ils soient, au départ des textes profanes, qui a été élaborée il y a quelques années par des linguistes essentiellement, qui se sont efforcés d'étudier les mécanismes du langage. Ceci notamment à partir des contes russes. Et partant de ces données linguistiques, etc., cette méthode d'analyse des textes, un certain nombre d'exégètes chrétiens, tant protestants que catholiques, ont appliqué aux textes bibliques les méthodes d'analyse structurale élaborées au départ pour les contes russes. Vous voyez que déjà ça vole très haut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode d'analyse d'une manière générale avant de l'appliquer à la Bible ? Eh bien, l'analyse structurale, c'est essentiellement une grammaire du discours. Essayez de voir comment le texte fonctionne et comment le texte est créateur de sens. Il s'agit en fait d'un démontage des mécanismes qui permettent à un texte, quel qu'il soit, d'être producteur de sens. Donc une élaboration de règles très précises à ce sujet. Et là, nous voyons que nous sommes en plein dans une vision tout à fait moderne des choses, où l'on ne se pose plus la question de la finalité. Qu'est-ce que le texte veut dire ? Finalement, c'est quelque chose de très secondaire pour celui qui fait de l'analyse structurale. Mais comment le texte fonctionne ? Finalement, nous sommes dans une vision très technicienne et très machiniste de la langue, n'est-ce pas ? En dernier ressort, ce que l'auteur a voulu dire, on s'en fiche royalement. On essaie tout simplement de comprendre comment les choses fonctionnent. Alors évidemment, cette méthode était tout à fait révolutionnaire au niveau de l'exégèse du texte biblique en particulier, parce que ce qui était jusqu'ici les présupposés de la méthode historico-critique, comme on l'appelle, qui sous-tend toutes les théologies modernes, celle de Bultmann, celle du libéralisme du 19e, etc., c'est essentiellement d'essayer de définir quelle est la préhistoire du texte. Les exégètes de la méthode historico-critique s'intéressent à la manière dont le texte a été élaboré, dans quel contexte historique, conditionné par quelle culture, etc., etc. Et partant de là, ils essayent d'en tirer un certain nombre de conclusions. Les analystes, ceux qui se livrent à l'analyse structurale, se désintéressent totalement de cette question de la préhistoire du texte, la question des sources et de ces choses qui finalement ont fait tant de mal à la théologie. Donc à ce niveau-là, on pourrait dire que c'est un progrès. Ils prennent le texte tel qu'il est et ils l'étudient tel qu'il est, sans s'occuper de savoir s'il est authentique ou pas, s'il a été véritablement écrit par Matthieu ou par Luc, si c'est le Pentateuque et Moïse ou pas. Finalement, ils se désintéressent totalement de ces questions-là. Encore une fois, à ce niveau-là, c'est un progrès par rapport à la méthode historico-critique et c'est quelque chose qui apparaît comme plutôt positif. En fait, n'est-ce pas, ce qui nous apparaît au départ comme quelque chose de positif, est largement compensé par d'autres aspects profondément négatifs, comme on va le voir. Alors, il s'agit, à partir d'un certain nombre de règles extrêmement complexes, on entre dans un véritable jargon d'initié, n'est-ce pas, quand on veut se livrer à l'analyse structurale, vous avez le signifiant, le signifié, etc. À partir de, alors, n'est-ce pas, l'action qui se développe, le point de départ, n'est-ce pas, il y a telle situation, et puis ensuite, n'est-ce pas, on évolue au travers de tout un processus vers telle et telle autre situation. Alors on a d'abord une situation stable qui se développe en une situation instable, puis qui redevient ensuite une situation stable, etc. Alors on fait des schémas, n'est-ce pas, situation première, situation 2, flèche par-ci, puis alors ensuite, on, à partir de ça, on crée un carré sémiotique, c'est-à-dire un carré de sens, alors on en fait que en diagonale, comme ça, on met le premier sens, deuxième sens, et puis ensuite, c'est comme on essaye de combiner les différentes, de faire les différentes combinaisons possibles à partir du carré sémiotique, d'ailleurs qui diffère selon les auteurs, c'est ça qui est tout à fait curieux, c'est que toutes ces méthodes soi-disant scientifiques arrivent, selon la fantaisie des différents savants qui s'en occupent, à des résultats diamétralement opposés. Ça, c'est fantastique, c'est absolument merveilleux, n'est-ce pas, de voir la précision scientifique qu'il y a dans ces choses-là. Hein. Alors donc, vous combinez les différentes formule possible à partir du carré sémiotique, et puis alors là on se rend compte d'une chose formidable, n'est-ce pas, c'est qu'il n'y a pas un seul sens possible au texte, mais il y a de nombreux sens possibles. Et pour les auteurs, n'est-ce pas, de cette géniale trouvaille, qui d'ailleurs absolument desséchante, n'est-ce pas, quand on se lance là-dedans, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fastidieux, tout à fait pénible. Mais les auteurs, n'est-ce pas, plutôt les spécialistes, y trouvent un intérêt qui est que finalement, ce n'est plus l'auteur du texte qui est producteur de sens, mais c'est celui qui lit maintenant le texte qui va se trouver producteur de sens. Non pas qu'il peut, à la limite, faire dire au texte n'importe quoi. Ça, évidemment, les gens qui se livrent à l'analyse structurale refuserait, n'est-ce pas, cette affirmation et grimperait au mur si on disait que leur méthode aboutit à cela. Mais en fait, ils découvrent qu'il y a différents sens possibles et finalement, eh bien, moi, lecteur du texte, je peux choisir parmi ces différents sens possibles celui qui me convient mieux. Sens peut-être d'ailleurs auquel l'auteur n'avait jamais pensé. Parce que l'auteur n'était pas suffisamment savant au point de vue d'analyse structurale, il n'avait pas vu toutes les significations possibles de son texte, mais moi qui suis beaucoup plus savant que l'auteur, n'est-ce pas, je peux discerner les différents sens possibles et choisir celui qui me convient le mieux. Et partant de là, nous arrivons à la notion d'une lecture qui n'est plus une lecture unique du texte, dans ce sens que on nous a tous appris à l'école, quand on faisait du français, quand on en faisait encore, que finalement, une analyse d'un texte, c'était d'essayer de se dire, ben, dans le fond, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ? Découvrir la signification du texte. En fait, maintenant, pour les gens qui font de l'analyse structurale, cette question n'a plus de sens. Ce que l'auteur a voulu dire n'a absolument aucune valeur. Ce qui est important, n'est-ce pas, c'est la lecture que j'en fais, moi, de ce texte. Et nous n'avons plus une seule lecture possible du texte, mais nous avons affaire à des lectures plurielles. C'est-à-dire qu'à partir du carré sémiotique, différents lecteurs vont, n'est-ce pas, trouver au texte une richesse extraordinaire, et puis, à partir du même texte, arriver à des lectures différentes, à des conclusions différentes, à des sens différents. Alors, aussi longtemps qu'on applique ce genre de procédé au conte russe, moi j'y vois absolument aucun inconvénient, mais à partir du moment où on les applique à la Bible, vous comprenez que ça a des implications tout de suite beaucoup plus graves. D'abord parce que c'est la négation de l'inspiration, de la notion même d'inspiration, car l'inspiration veut dire que précisément Dieu a voulu dire quelque chose de précis, le Saint-Esprit a voulu dire quelque chose de précis. Mais à partir du moment où vous niez qu'il y ait un sens à un texte, mais qu'il y a différents sens possibles, eh bien, vous niez tout simplement l'autorité de la Bible. Ça veut dire que si je peux, à la limite, et encore une fois en caricaturant, faire dire à la Bible ce que j'ai envie qu'elle dise, il n'y a plus besoin d'avoir de Bible. Il n'y a plus de référence, la Bible n'est plus la référence. Vous avez donc des lectures plurielles de la Bible. Vous pouvez lire le même texte, un texte qui parle de conversion ou du péché, et y trouver que le péché n'est pas le péché. Vous pouvez y trouver que Jésus-Christ n'est pas... Enfin, vous pouvez faire à dire à la Bible ce que vous avez envie qu'elle dise. Et par conséquent, vider la Bible de toute son autorité et de toute son... de toute sa valeur. Alors, c'est un certain Saussure qui, en 1906, a découvert ça. Et... tout n'est pas faux dans son système, bien sûr, c'est quelque chose, par exemple, dont on est obligé de tenir compte au point de vue des traductions de la Bible à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Jusqu'au début du siècle, on traduisait la Bible le plus près possible du mot à mot. Vous savez, par exemple, le chef-d'œuvre du genre, c'est la version d'Arby, par exemple, ou mieux encore, on a moderne Chouraki, n'est-ce pas, qui traduit toujours le même mot hébreu ou le même mot grec par le même mot français, etc. On essaie de suivre littéralement ce que dit le texte. Et on se rend compte que, d'une part, ça donne un jargon et un charabia quasiment incompréhensible. Hein, par exemple, quand vous lisez dans la seconde, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, bon, ben, dites ça maintenant à un enfant, élève en secondaire, le consommateur de la foi, s'imaginera que le consommateur, c'est quand on consomme, la société de consommation, c'est ça, ça ne veut rien dire. Alors, on s'est rendu compte également, c'est que quand on traduit mot à mot la Bible, on arrive parfois à faire des contresens, à lui faire dire exactement le contraire de ce qu'elle veut dire. Pourquoi ? Parce que un mot n'a de sens que par rapport à son contexte. Que dans une phrase, et c'est précisément ce que l'analyse structurale a voulu analyser, c'est l'interréaction des mots dans une phrase, les uns par rapport aux autres, pour justement signifier quelque chose. Et à ce niveau-là, je pense que jusqu'à ce moment-là, on peut suivre assez facilement cette démarche. Mais seulement à partir de là, les auteurs ont voulu aller beaucoup plus loin. Non seulement un mot a une valeur dans un contexte, contexte de la phrase, dans le contexte du texte dans son ensemble, mais également dans la société qui a produit ce mot et qui a produit ce texte. Et alors, on va beaucoup plus loin, n'est-ce pas, que le simple, la simple analyse linguistique au sens mécaniste du terme, mais il y a ensuite toute une philosophie qui sous-tend la chose. Alors, le mot, le sens du mot, la valeur du mot, dépend, n'est-ce pas, de la société qui le produit, c'est pas non plus tout à fait faux. Parce qu'encore une fois, si je prends l'exemple que je donnais tout à l'heure, le Christ, le consommateur de la foi, bon, le mot consommateur aujourd'hui n'a plus du tout le même sens qu'il avait en 1910, quand Segond a traduit la Bible, n'est-ce pas, ou quand elle a été révisée. Le consommateur, ça veut dire celui qui produit la foi. Aujourd'hui, ça veut dire exactement l'inverse. Celui qui utilise la foi, bon, alors voilà qu'on a un contresens aujourd'hui. Et partant de là, les auteurs arrivent encore à un autre degré, c'est la psychologie des auteurs qui ont employé ce mot. Et on arrive à une espèce de psycholinguistique, n'est-ce pas, qui essaye de tenir compte de la structure du discours comme une manifestation de l'inconscient. Alors il y a une espèce de... on mélange ça avec les théories de Freud, la psychanalyse et tout ça, on fait une espèce de psychanalyse de l'auteur et aussi du lecteur, en fin de compte, n'est-ce pas? Enfin, c'est extrêmement complexe, finalement. Le plus clair de l'affaire, n'est-ce pas, pour couper court, c'est encore une fois, c'est que le texte n'a plus de sens. Vous ne pouvez plus comprendre. Et finalement, le langage est source de malentendus, comme l'a dit Saint-Exupéry, je crois, n'est-ce pas? Donc, laissons le langage de côté et allons faire autre chose que du langage. Allons faire de l'action politique, allons faire de l'action sociale, etc. Et là, on retrouve ce que Jacques Ellul a décrit dans La parole humiliée, finalement. la dévalorisation du langage, la dévalorisation de tout discours, n'est-ce pas, au profit du visuel, au profit du technique, au profit de l'action, au profit de tout ce qu'on voudra, sauf de la parole. C'est la négation de la parole, c'est la négation du langage, c'est la négation du message inspiré, et par conséquent, c'est scier la branche sur laquelle le christianisme est assis. D'ailleurs, la langue est conçue comme un système clos, comme un véritable jeu, comme on joue aux échecs, ben on joue à l'analyse structurale, on joue à construire un carré sémiotique. Paraît-il que ceux qui se sont initiés à ce genre de choses, ils trouvent le même plaisir qu'ont des joueurs d'échecs à déplacer les pièces sur un échiquier. Ça devient un véritable jeu, mais qui n'a plus absolument aucune valeur, aucune incidence. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que ce soit un certain nombre de penseurs marxistes qui aient repris aussi cette technique-là, par exemple Lévi-Strauss, qui en a fait aussi un grand usage dans l'étude des mythes des peuples primitifs qu'il a étudiés, et par conséquent, la Bible se trouve réduite au niveau d'un mythe des peuples africains ou océaniens, tout ce que vous voudrez, et finalement, Lévi-Strauss confesse qu'il s'agit pour lui d'une tentative matérialiste de se situer politiquement. Alors voilà, c'est tout à fait clair, maintenant on sait exactement où on est. Avec l'analyse structurale appliquée à la Bible, c'est une tentative matérialiste de se situer politiquement. Alors il ne reste plus grand-chose, n'est-ce pas, pour la dimension verticale, pour l'intervention de Dieu, pour la révélation de Dieu. Alors nous avons affaire, disent les analystes, n'est-ce pas, à un texte qui n'est plus un texte fermé, mais un texte qui est un texte ouvert. Il y a des mots comme ça qu'on emploie, n'est-ce pas, ça fait bien, quoi, un texte ouvert. On le charge d'une valeur extraordinaire, alors ça veut dire que c'est un texte qui n'est plus contraignant, qui n'a plus d'autorité, il n'est plus contraignant, vous n'êtes pas obligé, quand dans la Bible vous dit il faut que vous lisiez de nouveau, bon, on a maintenant affaire à un texte ouvert, c'est plus contraignant, ça veut dire que vous n'avez plus, ça veut dire exactement le contraire, c'est plus nécessaire de naître de nouveau pour pouvoir avoir le royaume de Dieu, vous pouvez faire tout à fait autrement, n'est-ce pas, tout en étant encore fidèle à ce que la Bible le dit, parce qu'il y a une pluralité de sens virtuels. On devient soi-même fabriqueur de sens. On a l'impression d'avoir atteint, je crois, une espèce de nirvana philosophique quand on a dit ça. Alors, par exemple, quand on analyse de cette manière-là le texte d'un auteur moderne, vivant, donc, auquel... Alors on lui dit, voilà, ce que nous avons conclu de ton texte, on a souvent la surprise d'entendre cet auteur dire « Mais j'ai pas voulu dire ça du tout !» Et de lui répondre, ben c'est pourtant ce que tu as dit. Alors, le pauvre, il est comme de ronde-flanc, n'est-ce pas ? Ça dit, c'est pas possible, n'est-ce pas ? Comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans savoir. C'est un petit peu ce qu'on essaie de lui faire dire. Alors, soi-disant, d'après les promoteurs de cette méthode, ça redonnerait le goût de l'étude de la Bible à des gens qui en ont perdu le goût. J'avoue que quand on étudie les méthodes, n'est-ce pas, rien que le fait de s'initier au vocabulaire, n'est-ce pas, les actants, les signifiants, les signifiés, les actés, etc., le carré sémiotique, surtout, ça ressemble un petit peu à des espèces d'équations algébriques, vous savez, pour des gens qui sont allergiques aux mathématiques comme je le suis, ça donne pas du tout envie. Croyez-moi, ça ne donne pas du tout envie d'étudier le texte biblique. Mais en fait, ce qui est pire, encore une fois, c'est que c'est la négation de l'inspiration, la réduction, n'est-ce pas, de la Bible à un ensemble, à une espèce de structure, une espèce de squelette, finalement, autour duquel il n'y a plus rien. C'est comme si on disséquait le texte biblique pour ne garder de lui que le squelette. Et à partir de cela, n'est-ce pas, on met tout ce qu'on veut. Vous savez, un petit peu comme les paléontologues qui prennent une mâchoire de singe, un petit bout de mâchoire de singe grand comme ça, puis à partir de ça, ils vous reconstruisent l'homme de Cro-Magnon, ou l'homme de Néandertal, ou le pithécanthrope, tout ce que vous voulez. C'est un petit peu la même chose. L'imagination, là, intervient pour ensuite suppléer la pauvreté et l'indigence de tout ce qui reste entre les mains. Alors, ça a une incidence extrêmement grave sur l'étude de la Bible, et par conséquent sur la théologie, parce que, en fin de compte, n'est-ce pas, si beaucoup de gens sont absolument ignorants de ce qu'est un carré sémiotique, en tout cas, ils ont gardé la conclusion essentielle que dénonce Jacques Ellul dans son livre, à savoir que le discours n'a plus de valeur, n'a plus d'importance. que la Bible a une variété de sens possibles, qu'il y a des sens pluriels, que on peut y trouver ce qu'on a envie d'y trouver, et ce faisant, bien qu'il n'y a plus d'inspiration possible. Et c'est pourquoi, finalement, dans beaucoup de milieux, la Bible est totalement dévaluée. Dans ces milieux-là, c'est pas où on trouve la Bible de cette manière-là. En fait, l'autorité de la Bible est totalement dévaluée, et on ne peut plus, absolument plus, prendre la Bible comme base et comme référence. Alors il ne reste plus, finalement, que cette tentative de se situer politiquement, cette tentative matérialiste de se situer politiquement. Et on voit par conséquent où cela aboutit. Cela aboutit à la destruction de la foi, à la destruction du christianisme. C'est, je dirais, qu'avec l'analyse structurale, la boucle commencée avec le libéralisme, avec l'époque des Lumières, n'est-ce pas, la boucle est bouclée. Et on arrive maintenant à la négation de toute transcendance, de toute foi, de toute espérance, de toute possibilité pour Dieu d'intervenir, de parler, de se révéler. Alors c'est extrêmement grave. Je crois que c'est le point de la recherche biblique auquel nous sommes arrivés actuellement. C'est le nec plus ultra, bien entendu. Tout système, tout excès provoque une réaction. Et heureusement qu'aujourd'hui, quand même, depuis un certain nombre d'années, ces élucubrations-là, ces excès sont quelque peu relativisés. Néanmoins, comme disait Goebbels, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et dans l'esprit du grand public, dans l'esprit de bien des personnes dans les églises, de bien des croyants, enfin de gens qui étaient croyants, il y a l'idée que la Bible, ça n'a plus qu'une valeur, et finalement qu'il vaut mieux faire autre chose. Et beaucoup ont perdu la foi, tout simplement, à cause de ces gens-là, n'est-ce pas, de ces fossoyeurs de l'Évangile, ces gens qui sont de faux apôtres, de faux docteurs, que la parole de Dieu dénonce avec vigueur et avec force. Alors, voilà, si vous voulez, le point de la recherche théologique aujourd'hui au milieu protestant, et d'une certaine manière au milieu catholique aussi. Mais on voit que c'est peu réjouissant. On voit que la théologie aboutit finalement à une impasse, c'est-à-dire la combinaison de la philosophie humaine, du rationalisme humain avec la révélation de Dieu, ne peut qu'aboutir en dernier ressort qu'à une impasse, totale. Et c'est alors qu'il nous faut maintenant que nous essayons de dresser un bilan de la théologie à la lumière de la parole de Dieu. Mais auparavant, peut-être que certains ont des questions à poser sur cette question de l'analyse structurale. Saussure. S-A-U-2-S-U-R-E. Mais aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'analyse structurale, si vous ne faites pas d'analyse structurale dans les milieux qui suppliquent d'être des gens à la page, vous êtes un pauvre type, vous n'avez pas de problème. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu au moins ce que c'est.
Et ça fait combien de temps, vous ?
1906, il a élaboré ça à partir des contes russes, mais disons que dans les milieux chrétiens, c'est la mode depuis une quinzaine d'années, quoi. Ah oui, monsieur. Alors maintenant, quand vous prenez un texte biblique, vous avez d'abord la lecture dite naïve, c'est-à-dire la lecture que vous et moi, en tant que croyants, faisons. Vous voyez tout de suite que ça situe, quoi. Nous sommes des pauvres naïfs, des pauvres niais, des gens qui connaissent rien à rien, parce qu'on est des demeurés qui croyons encore que Dieu parle au travers de la Bible et que la Bible doit être prise telle qu'elle est, n'est-ce pas ? Ensuite, vous avez la lecture historico-critique. Alors ça, c'est déjà mieux, les gens qui font la lecture historico-critique de la Bible, c'est déjà des gens sérieux, quoi. Mais alors, évidemment, quand on a parlé de la lecture structurale de la Bible, alors là, tout le monde est d'autant plus béat d'admiration que personne n'a rien compris. Je me souviens d'une assemblée générale de protestantisme autour de laquelle une spécialiste de la chose était venue exposer. Il y a eu ces trois lectures, n'est-ce pas ? Il y a eu la lecture naïve, faite par un étudiant de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, qui avait dit des choses tout à fait bonnes, valables, qu'on aurait pu dire, qu'on entendrait dans n'importe quel évangélique, quand on parle des Aïe 53, l'amour de Dieu, bon, cure de péché du monde, Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ prophétisé, enfin bref, tout ce qu'on peut dire, quoi. Hein. Mais ça, c'est une lecture naïve, quoi. Hein. Ensuite, on a eu la lecture historico-critique, alors là, c'était Israël, ou c'était le prophète lui-même, on fait toutes sortes de théories. Puis ensuite, on a eu alors l'analyse structurale. Alors, personne n'a rien compris, un traître mot, et tout le monde était béat d'admiration là-dedans, parce que enfin, c'était le roi, l'histoire du roi nu, vous savez, le comte d'Angleterre. Personne ne voulait paraître un imbécile, quoi. Et personne ne voulait dire que ça n'est pas de nous, quoi. Personne ne voulait surtout reconnaître qu'il n'avait rien compris. Alors il y avait même un brave évangélique qui était là, après dans un groupe, qui disait que, oui, bien sûr, la lecture de l'évangélique du plus jeune étudiant, c'était bien, mais que, dans le fond, c'est vrai qu'à côté de l'analyse structurale, c'était rien, quoi. Et que, dans le fond, lui, il avait été vraiment frappé c'était vraiment cette lecture-là qui l'avait le plus interpellé, qui l'avait le plus intéressé. C'est une espèce de snobisme. C'est assez mesquin, puis c'est assez drôle de voir ça quand on voit avec un certain humour, un certain détachement. Puis au moment, il n'y a rien là-dedans. Et puis finalement, on a fait toute une montagne, tout un monde. On voit le pauvre abbé Laurentin aussi qui étudie l'évangile de Noël à partir du carré sémiotique, etc. Et donc, il y a un bouquin épais comme ça dessus pour arriver à quoi. Pas de chose. Franchement, débauche de pseudo-érudition pour arriver à récupérer la théologie catholique. C'est facile, puisque de toute façon, il y a des lectures plurielles. Alors, on peut récupérer la virginité perpétuelle de Marie, tout ça. C'est horrible. Vous êtes convaincu quand vous avez lu ça, quoi. Oh, si je peux vous amener ça la prochaine fois, si vous voulez vous amuser un peu.
Et également avec elle aussi.
Si je peux vous laisser plaisir de vous trouver un exemple, justement, l'abordant avec un certain humour, si ça ne va pas dans le coup. Quelqu'un passe quelque chose, un truc, je marque ça pour moi.
C'est ça.
On va écrire.
Essayez-nous de prendre un truc de Laurentin, puis un truc. J'ai tout un exposé sur la liste structurelle. Je n'ai pas trop approfondi ça, je vous dirais franchement, parce que ça ne m'a pas enthousiasmé d'une manière telle que j'y passais des jours et des nuits. Non, je ne suis pas arrivé à ce point à la pratique qu'il y a des gens qui font ça pour ça. Comme ils respirent, comme ils jouent aux échecs, etc. Ou comme ils jouent au loto, ou bien au tiercé. Mais j'avoue que, en ce qui me concerne, je suis loin de ça. Bien, est-ce qu'on aborde alors cette question du bilan maintenant de la théologie ? Nous pouvons dire que c'est un véritable drame que cette dérive de la théologie, parce que ce poison, c'est un véritable poison, a pénétré dans la plupart des écoles de théologie, et aussi, il faut bien dire, dans bien des églises, dans bien des paroisses réformées, luthériennes, et même parfois évangéliques, du monde, finalement, du monde entier. Même jusque dans les pays d'Afrique, etc. C'est dans la mesure où beaucoup de pasteurs africains ou pasteurs du tiers-monde sont venus se former dans les facultés de théologie européennes, c'est aussi ce poison qui a pénétré donc, dans ces pays du tiers-monde. Je pense que à la base de ce drame, il y a le refus du miracle. Je crois que tout part de là. Le refus de la transcendance qui fait que toute une dimension de l'évangile et de la Bible se trouve ainsi évacuée. Finalement, c'est cette idée que croire au miracle, croire au surnaturel, croire que Jésus était plus qu'un simple homme, croire que Jésus est ressuscité, c'est faire montre, comme nous disions tout à l'heure, d'une foi naïve. Et ce faisant, c'est aborder l'étude de la Bible dans une vision qui est uniquement humaine, celle que définissait l'apôtre Paul quand il disait « L'homme naturel ne connaît pas les choses de Dieu, elles sont folies pour lui, c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc, toute la théologie moderne refuse d'envisager la lecture de la Bible spirituellement, comme dit l'apôtre Paul dans le texte que nous évoquons, et ce faisant, refusant d'en juger spirituellement, il se condamne à la première partie de la proposition de l'apôtre, n'est-ce pas ? C'est une folie pour lui. L'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu, c'est une folie pour lui. Si bien que, à partir du refus de juger spirituellement des choses, il passe à côté de l'essentiel. Les conséquences sont beaucoup plus graves que ce qu'il paraît à première vue. Quand on dit, eh bien, il s'agit tout simplement d'expurger de la Bible ce qui est miraculeux, tout en gardant l'essentiel de son message. C'est faux. En niant le miraculeux, on passera à côté du message de la Bible. Et il suffit d'en voir les conséquences qu'en tirent toutes ces théologies, toutes sans exception, qui nient la possibilité à Dieu d'intervenir miraculeusement. Finalement, on arrive à la négation du message même de la Bible, la négation du salut, la négation de la transcendance, c'est-à-dire finalement la négation de Dieu. Et finalement, l'évêque Robinson, disciple de Gutmann, et celui qui a été le plus loin dans cette honnêteté, d'ailleurs, c'est ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire dans un livre qui a été traduit en français par Dieu sans Dieu, mais qui en anglais s'appelle Honest to God. Il a voulu être honnête, effectivement, pousser jusqu'aux ultimes conclusions cette démarche, et bien finalement c'est la négation de lui-même, c'est l'athéisme. Robinson, un évêque anglican. Par exemple, au niveau du BEM, c'est très clair. Également qu'il n'y a plus de vie éternelle. Le christianisme n'est plus qu'une espèce d'humanisme où il s'agit d'organiser un monde meilleur, mais pour l'homme uniquement ici-bas, à partir de grands principes que Jésus a prêchés, l'amour, la justice, un nombre de principes moraux qu'on trouve plus ou moins partout, dans toutes les religions, etc., et qui servent de base à la reconstruction du monde à partir de ce genre de principes-là. Mais de vie éternelle, de vie après la mort, de résurrection, de tout ce qui est finalement l'essentiel du message biblique, eh bien, il n'y en a point. Hein? Alors que la Bible met d'abord le royaume de Dieu et sa justice, d'abord la vie éternelle comme la chose la plus importante, la théologie moderne, mais comme la chose la plus importante et unique, la seule finalement, eh bien ce monde-ci. Et en cela, finalement, entre celui qui croit de cette manière-là, qui croit, entre guillemets, au principe de la théologie moderne, et l'athée, l'humaniste athée qu'on trouve aujourd'hui dans le monde, il n'y a finalement pas grande différence. La seule différence qui pourrait rester encore, c'est que l'humaniste chrétien, entre guillemets, croira en une espèce de Dieu lointain, Deus ex machina, qui parle à l'intérieur de la conscience, éventuellement. Je crois que c'est à peu près la seule différence qu'on pourrait trouver. Autre conséquence aussi, c'est celle que nous évoquions, c'est que l'écriture est dépendante de son contexte culturel. Et par conséquent, la Bible ne diffère en rien d'un autre livre. Et si l'on parle encore d'inspiration au sujet de la Bible, c'est de la même manière qu'on dira que tel auteur, tel poète était inspiré. Pas Victor Hugo, quand il a écrit, je ne sais pas, La Légende des siècles, était inspiré. L'inspiration poétique. Ou l'inspiration de tel et tel artiste qui a peint tel et tel tableau, ou écrit telle et telle œuvre musicale, etc. Et c'est un sentiment uniquement humain. Alors, entendu, la Bible reste un grand chef-d'œuvre de l'humanité, voire un livre de référence, parce que dans le fond, ceux qui ont écrit cela, n'est-ce pas, notamment Jésus, qui était un simple homme, a été inspiré, dans ce sens qu'il a, découvert dans l'homme des potentialités qu'il a exprimées mieux que vous et moi n'aurions pu le faire. Mais c'est tout. Il n'y a aucune dimension divine, aucune dimension spirituelle, aucune dimension transcendante. Alors je crois que là, c'est, on peut dire, l'état d'alarme numéro un. C'est là-dessus, c'est le cœur de la bataille. Aujourd'hui, il se situe là. C'est pourquoi nous avons commencé notre étude de la doctrine par l'étude de la parole de Dieu, l'inspiration. Parce que c'est là le cœur du combat aujourd'hui. Si vous touchez à ça, vous touchez à tout. Et les problèmes de déraillement éthique que nous trouvons aujourd'hui, y compris dans les milieux évangéliques, sur la question du mariage, du divorce, toutes ces choses-là, le refus de la sanctification, etc., viennent de ce que l'autorité de la parole de Dieu, la foi dans l'inspiration de la parole de Dieu, est sapée à la base. Vous allez dire, mais pourtant, les milieux évangéliques y tiennent fermement, voire, pas aussi fermement que ça, justement. Et il nous faut aussi définir ce que veulent dire les mots. Parce qu'encore une fois, quand nous parlons d'inspiration, est-ce que nous voulons dire la même chose? Quand nous parlons d'autorité de la Bible, est-ce que nous voulons dire la même chose? Et là, précisément, c'est beaucoup plus subtil que ça nous paraît, même dans les milieux évangéliques, encore une fois. Et il y a bien des gens qui vous diront que la Bible est inspirée, qui vous parleront d'inhérence des Écritures, qui vous parleront de l'inspiration plénière, etc. Mais qu'est-ce que recouvrent les mots? Je crois que quand on a discuté sur ces choses-là avec les interlocuteurs, il faut préciser. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, là, c'est encore une fois, le cœur du combat. Si nous lâchons sur ce niveau-là, si il y a une perte de la foi à ce niveau-là, à terme, c'est tout l'édifice du christianisme qui s'écroule. À terme, nous adopterons les conclusions ultimes des théologies modernes que nous avons évoquées. Le catholicisme n'est pas exempt de cette dérive-là. Par exemple, lorsque le libéralisme est né en milieu protestant, le pape Pie X avait réagi très très vigoureusement, condamnant le modernisme, et c'est Pie XII qui a ouvert la porte prudemment au modernisme, mais tellement que ça a conduit à toutes sortes d'excès, et qu'actuellement le pape actuel est en train de réagir très très vigoureusement, mais il n'est pas sûr d'y arriver. En milieu catholique, un certain nombre de théologiens sont allés très très loin aussi dans ce domaine-là. Et les prises de position du pape soulèvent bien des difficultés, bien des problèmes. Et il n'est pas sûr qu'un pape à venir n'ouvre pas la porte à nouveau dans ce domaine-là. Alors c'est pourquoi le combat est très très dur. Pour le catholicisme, c'est d'une certaine manière plus facile parce qu'il suffit quand même qu'il y ait un pape énergique comme celui qui est actuellement, pour limiter quand même la casse. En milieu protestant, vous n'avez pas ça, bien entendu. Et automatiquement, le protestantisme qui a été quelque chose d'extraordinaire au XVIe siècle, aussi longtemps qu'il a tenu ferme sur l'autorité de la parole de Dieu, parce qu'il a permis justement cette grande libération, n'est-ce pas, du carcan romain, et bien maintenant, dans la mesure où le fondement de la parole de Dieu est sapé, provoque le chaos. Et remarquez que ce sont les pays protestants qui sont le plus en pointe dans le domaine de la dégradation des mœurs. C'est pas un hasard, ça. C'est parce que, précisément, il y a à la fois ce principe de liberté qui se trouve dans l'Évangile et qui a fait en sorte que nous disions, il y a peu de temps, n'est-ce pas, que nos civilisations, aussi longtemps qu'elles ont été basées sur les principes de la réforme, ont permis, dans les pays qui ont été atteints par le mouvement de la réforme, l'éclosion d'une liberté qui a été sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais d'une liberté qui n'a pas abouti au chaos, parce que c'est ça le danger d'une liberté qui n'est plus contrôlée, c'est qu'elle aboutisse à provoquer le chaos dans la société. Ça n'a pas été le cas dans les sociétés protestantes jusqu'à nos jours, parce que justement, il y avait l'autorité de la parole de Dieu qui était là, qui servait comme frein et comme limite à cette liberté-là. Et puis, depuis un siècle, n'est-ce pas, il y a mise en doute, contestation de l'autorité de la parole de Dieu, et le résultat, c'est le chaos total que nous voyons aujourd'hui, qui prépare un nouvel autoritarisme qui sera celui de l'Antéchrist. Alors ici, nous voyons l'importance de l'enjeu. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Quels sont les principaux résultats des acquis de la théologie moderne? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en reste essentiellement? Nous avons vu que la théologie moderne, ce sont des vagues. Ça va, ça vient, n'est-ce pas? Une mode en chasse l'autre. Mais comme disons tout à l'heure, monter, il en restera toujours quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qui reste essentiellement? D'abord, la négation de la résurrection. Et ça, Chenu a très très bien montré cela, justement, comment le grand public a été touché par cette négation de la résurrection. Et c'est spécialement cette négation de la résurrection qui est une des bases essentielles de la crise de notre monde moderne, de notre civilisation moderne, de la culture moderne. S'il n'y a plus de résurrection, s'il n'y a plus de vie après la mort, s'il n'y a plus d'espérance au-delà de la tombe, mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est le retour au paganisme. Et le retour au paganisme que nous constatons aujourd'hui vient justement de cette perte de la foi dans la vie après la mort, dans la résurrection. Tout ce qui concerne l'avortement, la dénatalité, l'euthanasie et toutes ces choses-là sont aussi la conséquence de la négation de la résurrection. Car s'il n'y a pas de résurrection, pas d'espérance après la mort, à quoi bon donner la vie? À quoi bon transmettre la vie? Nous, nous sommes là, on n'a pas choisi de l'être, on est trop lâche pour se faire harakiri. Bon, eh bien, allons jusqu'au bout de la course, en essayant de faire en sorte que cette course soit le plus agréable possible. Mais là, ne commettons pas la bêtise d'infliger ce supplice à d'autres. Et c'est le refuge dans la transmission de la vie aussi, comme l'a montré Chenu très très, très très magistralement dans un de ses derniers ouvrages. Alors ça, c'est une conséquence grave. Deuxièmement, déification de la science. La science qui exclut toute finalité et qui est la seule vérité. Par conséquent, il y a refus en déifiant la science, en faisant le critère absolu de toute vérité, en réduisant toute vérité à une démonstration, à quelque chose qui est démontrable scientifiquement. C'est la négation de la transcendance, parce qu'on ne pourra jamais mettre Dieu dans une éprouvette. Et tout simplement parce qu'un Dieu qu'on pourrait mettre dans une éprouvette ne serait plus Dieu. Et ce faisant, il y a un retour aussi au paganisme, dans ce sens que c'est la nature qui est Dieu. La force vitale, le hasard, si on reprend la théorie mono. Donc nous sommes à l'intérieur d'un monde clos, d'un système clos, c'est un retour exactement au paganisme. C'est exactement la vision des Grecs, ça. Si vous prenez par exemple un Lucrèce, si vous prenez tous les épicuriens, les philosophes épicuriens, etc. C'est exactement leur vision. Donc, un monde clos où rien ne peut pénétrer de l'extérieur. Et c'est cela la théologie dite scientifique. Donc, la notion de salut n'a plus de sens. Il n'y a pas de vie après la mort. Si, elle n'a qu'un sens terrestre, humaniste. Mais la notion de péché, la notion de pardon, n'a plus de sens. Et ce faisant, eh bien, place nette est faite pour la licence.
qui a pu prêcher, ben, je peux vivre comme je veux, je peux vivre dans ma vie. Et par conséquent, le système de la religion devient quelque chose qui peut s'intégrer dans le système technicien, le système de l'Antichrist. Deuxièmement, c'est privilégier, troisièmement plutôt, c'est privilégier le rationalisme. La raison de l'homme. Alors ici, mettons tout de suite une limite. La Bible n'est pas contre la raison, loin s'en faut. La Bible reconnaît que l'homme est un être raisonnable et fait souvent appel à sa raison. Seulement, ce que nous dit la Bible, c'est que l'homme ne peut pas tout expliquer par sa raison. Mais à partir de cette révélation, la raison de l'homme va continuer à travailler. Et c'est cela, justement, la doctrine. Qu'est-ce que c'est la doctrine ? C'est la révélation qui est pensée. C'est la révélation qui est rationalisée. C'est ça, justement, le travail du docteur. Mais il travaille à partir de vérités qui sont révélées. C'est-à-dire qui ne sont pas accessibles à la raison. Et par exemple, la formule qui a fait fortune en son temps, « Je crois parce que c'est absurde », eh bien, c'est vraiment absurde. Et ce n'est pas biblique. Le donné révélé n'est pas irrationnel. Il n'est pas plutôt anti-rationnel. Il n'est pas contre la raison. Il est supra-rationnel. Il est au-delà de la raison. Mais rien, par exemple, dans la révélation biblique, n'ira au contraire, n'ira à l'encontre de ce qui est véritablement rationnel. C'est-à-dire que jamais la révélation biblique ne nous amènera à dire, par exemple, que quelque chose qui est blanc est noir, que quelque chose peut être en même temps que son contraire, ce qui est contraire au principe de la raison. Mais la Bible dit, votre raison va jusque-là, jusqu'à un certain point. Mais au-delà, vous ne découvrirez rien. Par conséquent, la Bible vient vous apporter la révélation, vient vous apporter ce que la raison ne vous permettra pas de connaître. Mais ceci faisant, c'est un complément de la raison. Ce n'est pas quelque chose qui lui est contraire. Voyez-vous la différence? Et ça, c'est très important parce que beaucoup d'ennemis de la foi chrétienne disent, eh bien justement, la Bible nous amène à entrer dans des choses qui sont absurdes, à croire des choses qui sont absurdes, etc. Absurde, non. Folie, pour l'homme irrégénéré, oui. Folie, pour l'homme qui refuse, n'est-ce pas, de juger spirituellement des choses, comme disions tout à l'heure, oui. Mais pas absurde. C'est-à-dire pas contraire à ce que qui est évidemment vrai, c'est-à-dire qui se donne comme une évidence. Voilà. Et précisément, la démarche rationaliste consiste à dire « Je refuse tout ce que ma raison... » C'est vraiment pénible, ça. Il faudrait vraiment qu'on prenne l'habitude de décrocher le téléphone quand on a l'envoyé. « Je refuse de reconnaître pour vrai ce que ma raison n'a pu démontrer d'une manière logique. » Et c'est là que la Bible dit non. Et c'est là précisément que l'homme spirituel est amené à une démarche d'humilité. Parce que le rationalisme est une démarche d'orgueil. Qui consiste à déifier l'homme, le mettre au centre de tout et croire qu'il peut tout comprendre. C'est l'Institut Maudit des Sciences à Chicago qui a illustré ça à merveille, vous savez, dans prenant l'image de ce, je crois que c'est dans un film, vous savez, les films qu'ils font, où,
c'était le film, c'était
ah oui,
où on montre que, par exemple, comment une abeille, vous savez, avec un œil, vous savez, de multiples facettes, voit les choses. Au-delà d'un certain son, l'oreille humaine ne peut plus entendre. Au-delà d'une certaine longueur d'onde, l'œil humain ne peut plus percevoir un certain nombre de choses. Mais comment, avec, par exemple, certains appareillages infrarouges, on arrive à voir ce que l'œil humain ne voit pas. On a une vision tout à fait différente des choses. Et finalement, l'auteur de ce film conclut en disant l'homme qui serait complètement borné, qui dit je ne crois que ce que je vois, bien pourtant il y a des choses qu'il ne voit pas qui existent quand même. Et le film le montre. Et finalement, la démarche rationaliste est celle-là. L'homme qui a une raison limitée, qui dit bien, en dehors de tout ce que je peux appréhender par cette raison-là, ça n'existe pas. Et l'auteur du film dit bien, par exemple, c'est comme le poisson qui dirait bien, puisque tout ce qui existe en dehors de l'eau n'existe pas, parce que moi je ne suis jamais sorti de l'eau. C'est exactement la même démarche. La Bible appelle l'homme à une démarche d'humilité, de dire bon, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais que précisément Dieu peut me révéler. Et que la Bible peut me révéler. C'est le refus de la raison autonome, d'une raison qui s'affranchirait la révélation de Dieu. Or, précisément, à la base de toute les théologies modernes, il y a ce rationalisme, cet orgueil, cette déification de la raison humaine. L'homme est placé au centre. Et c'est pourquoi, finalement, la théologie moderne est aussi humaniste. Elle est tributaire de la philosophie humaniste et existentialiste du siècle dernier, en particulier de la philosophie d'Heidegger. Heidegger est vraiment le maître à penser de tous les théologiens modernes, quels qu'ils soient, où l'homme est le centre du monde, le seul objet véritablement intéressant. Et puisque rien n'existe en dehors de l'homme, en fin de compte, l'homme est la mesure de toute chose, la seule réalité qui donne un sens au monde, parce que le monde n'existe pas indépendamment de l'homme, comme le disait Pascal, quand bien même l'univers écraserait l'homme, l'univers ne sait pas qu'il écrase l'homme. Donc c'est l'homme qui donne un sens à l'univers. Et c'est ce que disent les philosophies existentialistes. Par conséquent, ce qui est intéressant, c'est uniquement l'homme. Et ce qui compte pour l'homme, c'est de vivre authentiquement. Et ça, on retrouve aussi des notions qui sont chères aux hommes de ce temps. Finalement, vivre authentiquement, vivre pleinement, s'éclater, finalement, c'est le reflet. C'est la version, comment dirais-je, populaire de la philosophie des guerres, en gros, si vous voulez. Parce que finalement, les idées des philosophes finissent par passer dans le grand public. Hein, ça ne faut pas le dire. Et c'est l'idée, si vous voulez, que l'homme, pour être vraiment lui-même, doit comprendre son existence. Et ce faisant, être le maître de son existence, être autonome, maître de ses décisions. Mais précisément, l'anthropologie de ces gens-là les amène à conclure que l'homme ne peut pas se connaître. L'homme est inconnaissable. Alors, c'est une impasse. C'est l'impasse totale. Qui conduit finalement à ce que un certain théologien qui a eu son heure de gloire au moment de 68, s'appelait Simon, Louis Simon, professeur à la faculté de théologie de Paris, osait appeler un athéisme chrétien. Il existe aujourd'hui au sein du protestantisme français, mouvement officiellement rattaché à la Fédération protestante de France, n'est-ce pas, le mouvement des athées chrétiens, ou des chrétiens athées, je crois, des chrétiens athées. Voilà, ça existe. Et on lisait dans ces années 68, dans le journal de la FEUF, vous voyez, ça remonte loin, que oui, il faut oser affirmer que la Bible nous conduit à professer un athéisme chrétien. Quelque chose comme ça. C'était en tout cas, c'est celui Simon qui avait écrit ça d'ailleurs dans le journal de la FEUF. Voilà ce qu'on y disait par exemple. Il faut avoir le courage d'affirmer que la révélation biblique ne peut rien nous apporter quant à la mort. Quelque chose comme ça.
que les récits bibliques ne sont en fin de compte que le produit du conditionnement culturel de leur époque. Ça, c'est tout ça aujourd'hui, sous des formes diverses, de la pensée de la plupart des théologiens modernes. Ensuite, et nous terminerons par là pour ce soir, la théologie moderne est tributaire, enfin, se veut tributaire en tout cas des sciences de la nature. Science de la nature qu'elle a mal compris bien souvent et mal assimilée parce que ces messieurs finalement se piquent d'être des scientifiques, en fait à peu près aussi doués en science de la nature que je suis en mathématiques, ce qui n'est pas de dire. Par exemple, ces messieurs n'ont pas, semble-t-il, assimilé ce qu'est la théorie des quantas, qui est au moins à peu près du chinois, mais enfin. Ce qui est un peu intéressant, paraît-il, dans la théorie des quantas, c'est que les particules qui constituent la matière, en fin de compte, n'obéissent pas obligatoirement aux lois de la causalité, aux lois de cause à effet, qui est la loi fondamentale de la démarche scientifique. Il y aurait une spontanéité au niveau des particules les plus infimes de la matière qui laissent une possibilité donc d'échapper au déterminisme qui est la loi fondamentale des sciences de la nature. Donc qui laisse la possibilité d'une révélation, qui laisse la possibilité d'une intervention de Dieu dans la matière. Et ça, par exemple, aucun théologien moderne n'a pris en compte au moment où ils ont une approche scientifique, donc ils en sont toujours à la science, si vous voulez, du début du siècle, en gros, quoi. Ils sont toujours en retard d'une guerre, ces messieurs, parce que fermés, c'est pas les enfermes dans leur système. Pour eux, alors on voit ce que nous disons par exemple chez Louis Simon, je crois toujours, pour nous, il n'y a qu'une seule réalité. C'est la réalité démontrable du monde. Donc tout ce qui n'est pas démontrable, en termes justement de principe de causalité, n'est pas vrai, n'existe pas. Depuis Kant, dit-on encore ailleurs, ce qui compte, c'est ce qui est vérifiable scientifiquement. C'est clair. Donc tout ce qui est miracle, tout ce qui est incarnation, tout ce qui est... Et là, on retrouve exactement l'analyse de Jacques Ellul dans la parole unifiée, n'est-ce pas ? Le système scientifique et technicien envahit tous les secteurs de la vie des hommes, y compris dans la vie de l'Église, et il n'y a plus que cela qui compte. Il y a refus, n'est-ce pas, de tout ce qui est l'essence même du message de la Bible, tout ce qui est la dimension de l'invérifiable de la révélation, de la parole. Finalement. Alors, toujours sous la plume de ces gens-là, on trouve cette affirmation, parler de deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est une absurdité. Il n'y a qu'un seul monde. Parler du ciel, en opposition avec la terre, c'est avoir une pensée mythique qui était celle des anciens, qui s'oppose fondamentalement à la pensée scientifique que Gagarine, le premier homme qui est allé dans l'espace, évoquait quand il disait que là-haut, il n'avait pas rencontré Dieu. Ce à quoi un homme de foi lui avait répondu avec beaucoup de pertinence, mon pauvre ami, tu n'as fait qu'un saut de plus dans l'espace. Pour rencontrer Dieu, il faut s'élever un petit peu plus haut que ça. Mais il est certain que la mentalité scientiste, je ne dis pas scientifique, parce que ce n'est pas scientifique du tout. Les grands savants sont ceux qui reconnaissent avec humilité qu'ils ne connaissent pas grand-chose et que finalement, derrière tout cela, il y a la puissance de Dieu. Mais la mentalité scientiste, n'est-ce pas, qui fait que finalement, ne compte que ce monde-ci. Et ce faisant, bien entendu, nous sommes en opposition totale avec ce que Jésus disait quand il disait: moi, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Et c'est exactement ce qu'il pourrait dire aux théologiens modernes. Vous êtes d'en bas, vous voyez que les choses d'en bas. Ou bien des textes comme Jean 3, verset 31, bien connu, n'est-ce pas ? Comment croirez-vous, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Alors, finalement, on a abouti à cette conclusion : défense à Dieu de faire des miracles. Interdit à Dieu de faire des miracles. Et comme l'a fort bien dit un autre philosophe catholique, bien que profondément croyant, dans l'Esclavel, n'est-ce pas, dans un livre intitulé, un titre un peu provocateur, je n'osais
j'hésite à répéter, Dieu est Dieu, non deux. Bon. Mais il avait raison. Si Dieu est Dieu, c'est-à-dire s'il est vraiment cet être tout-puissant, qui connaît toutes choses, au nom de quoi, toi, misérable ver de terre, pauvre petite créature, lui interdis-tu de faire des miracles? Lui interdis-tu d'intervenir dans l'histoire? Quelle prétention est la tienne, théologien moderne? Qui es-tu pour dire cela? Vraiment, l'homme qui s'est divinisé, l'homme, ils ont perdu la raison, se vantant d'être sages, comme dit l'apôtre Paul, ils sont devenus sages. Et ils ont adoré la créature du créateur. C'est exactement la démarche des théologiens modernes. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont adoré la créature, l'homme, au lieu du créateur, se faisant préparant la voie d'Antichrist. Et il n'est pas étonnant que l'Antichrist, tel que le disait l'apôtre Jean, soit un phénomène religieux d'abord. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais ils sont sortis du milieu de nous. Et là, je reprends une parole que Dieu nous offre, avec laquelle nous entretenions tout à l'heure, avait dit depuis longtemps, quand il avait commencé, il y a bien des années, sa lutte contre la pornographie au Danemark, n'est-ce pas, les responsables de la situation actuelle, ce sont les théologiens. Les responsables de la nuit antichrist, ce sont les théologiens. Pas sur l'illusion. C'est d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir que en Union soviétique et dans tous ces pays-là, la propagande anti-religieuse dit, vous voyez, même les théologiens, même leurs théologiens n'y croient pas. Et c'est vrai. Et ce sont eux qui fournissent des armes pour saper justement les fondements de la parole de Dieu, pour saper la foi et pour préparer le système qui, le système d'Antichrist, le système qui, à la fin, apparaîtra vraiment comme l'incarnation du mal, la manifestation du mal. Alors, et vous, là, nous sommes vraiment au cœur d'un débat essentiel pour notre temps. Les théologiens modernes, la théologie moderne est vraiment le mal, le cœur du combat, n'est-ce pas? C'est là, ce sont les pires, les faux docteurs, donc pas ce que dénonce la parole de Dieu. Alors, évidemment, ce ne sont pas obligatoirement des gens, comment dirais-je, ce n'est pas des gens pervers, obligatoirement, des gens qui veulent détruire. Et on peut penser, et en utilisant, n'est-ce pas, en essayant de vivre 1 Corinthiens 13, que certains d'entre eux sont sincères, égarés mais sincères, faisons-leur cet a priori. Mais leur sincérité n'empêche pas qu'ils sont dangereux. Ils sont des instruments entre les mains de l'ennemi. Alors, il ne s'agit pas de les attaquer en tant qu'hommes. Il ne s'agit pas de les dénoncer comme des gens pervertis, ou certains sont pervertis peut-être, d'autres les utilisent, comme ces athées des pays de l'Est auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Mais ils ont perdu la bonne conscience, ils se sont égarés. On peut dire, eux, ce sont des frères égarés. On peut dire peut-être encore, enfin des frères même, la Bible nous dit, celui qui n'enseigne pas cette doctrine, ne le recevez pas, ne dites pas salut. Dénoncez-les, c'est vrai. Faisons-le en pensant qu'ils sont sincères. Sincères mais égarés. Mais cela n'empêche pas que ce qui est grave, c'est qu'ils en entraînent des milliers d'autres. C'est qu'ils donnent aux ennemis de la foi des armes et des arguments, des idées qu'ils n'auraient jamais eues autrement. Et finalement, ils sont extrêmement dangereux. Voilà ce que je voulais dire ce soir.